Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci de suivre Radio Kapi. Bienvenue à ce journal dès 15h. Au sommaire, un calme relatif est observé dans la matinée de ce lundi dans la cité de Minova et Bweremana au sud de Masisi. Au nord Kivu, après d'intenses affrontements à l'arme lourde tous les week-ends, nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux appuyés par le FRDC en provenance du sud Kivu ont permis d'éloigner les affrontements de Minova et Bweremana. Préliminaire des examens d'État, plus de 950 000 finalistes du secondaire ont affronté ce lundi les épreuves hors session édition 2024. Cela en RDC comme dans les 13 centres situés en dehors du pays. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, qui a lancé officiellement ces épreuves à l'Institut Lumumba délimité à Kinshasa. L'invitée de ce journal est Linda Boulesso, coordinatrice de l'Union de femmes domestiques du Congo à Beni. Elle revient sur les mécanismes mis en place par sa structure pour lutter contre les violences basées sur les genres et canaliser les plaintes des femmes des ménages victimes de traitements dégradants. Bonjour, ce journal part du nord Kivu. La cité de Minova et Bweremana au sud de Masisi ont connu un calme relatif ce lundi dans la matinée après d'intenses affrontements à l'arme lourde tous les week-ends. Ces combats opposent les FRDC et les Wazalendo contre les rebelles du M23. Des sources concordantes affirment que les Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles de la colline Bitonga et Muyaga jusque dans les hauteurs de Murambi, dans les groupements Mufunishi. Cependant, la population continue à fuir toute la région ce lundi, craignant une éventuelle représaille, mais aussi des bombardements. Et puis, bombardement du camp des déplacés de Lushagala à Goma, au nord Kivu, la SADC condamne fermement cet acte qu'elle attribue aux rebelles du M23. Pour cela, elle annonce pour très bientôt des opérations de grande envergure, des opérations conjointes avec le FRDC pour neutraliser ces rebelles et ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Chris Mukand.
Dans un communiqué rendu public le dimanche 5 mai 2024, la communauté de développement de l'Afrique australe dit condamner fermement les horribles attaques perpétrées par les rebelles du M23 contre les personnes déplacées à Mugunga, au nord Kivu, le 3 mai 2024, tout en désignant ouvertement le M23 comme auteur et responsable du drame du camp de Lushagala. La SADC donne un bilan de 16 morts avec une trentaine de blessés, tous des civils. Il s'agit d'un ciblage délibéré d'innocents civils en violation flagrante du droit international humanitaire, des lois relatives aux droits de l'homme et de ses principes, ajoute le communiqué. En conséquence, des opérations militaires sont envisagées en vue de neutraliser ces rebelles du M23. Elles se feront en coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo et auront d'autre part comme objectif ramener la paix et la sécurité en créant un environnement sécurisé et en protégeant les civils et leurs propriétés sous des menaces ou des attaques imminentes. Autre objectif de ces opérations conjointes, ouvrir les routes d'approvisionnement et veiller à ce que les civils soient à l'abri de toute intimidation, déplacement et meurtre, afin que les communautés puissent mener leur vie quotidienne sans aucune interférence ni menace, conclut le communiqué de la SADC. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Pendant ce temps, l'Union africaine condamne les bombardements meurtriers contre des camps de déplacés au lac Vert et à Mugunga, ayant entraîné des morts et des blessés graves, dont des femmes et des enfants, dans la périphérie de Goma, au nord Kivu. Dans un communiqué publié hier dimanche, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple congolais. Il déplore profondément l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes à l'est de la RDC. Ces hauts cadres rappellent que de telles violences vont à l'encontre de l'esprit et la lettre des accords de Luanda du 21 mars 2024 appelant au cessez-le-feu complet et immédiat. Enfin, Moussa Faki Mahamat réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et moyens d'une paix durable dans l'est de la RDC ainsi que toute la région de Grand Lac. Je le disais au sommaire, plus de 950 000 finalistes du secondaire ont débuté ce lundi les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024, cela en RDC, comme dans les 13 centres situés en dehors du pays. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, qui a donné ce lundi l'ego officiel de ces épreuves à l'Institut Lumumba de Limete à Kinshasa. Plusieurs sujets à développer au choix ont été proposés aux élèves. Certains que Murphy Fika a rencontrés à leur sortie des salles d'examen dans ces centres nous disent comment ils l'ont passé et quels sujets ils ont choisi. Suivez.
J'ai bien passé mon examen, mais au niveau de la salle, l'environnement n'était pas bon.
Il n'était pas vraiment propre
et puis il n'était pas confortable. Les sujets étaient un voyageur, n'a ni un plan ni une destination. C'était à discuter. Et puis j'ai discuté. Le pensée de mes lycéens était fausse parce qu'un bon voyageur doit avoir le plan et une très bonne destination là où il va. J'ai l'assurance que j'ai bien travaillé, j'ai obtenu aussi de bons pourcentages.
L'organisation, c'était pas vraiment bien. L'endroit était un peu stressant. Et à part ça, l'examen s'est bien passé. Moi, j'ai développé le sujet. Il faut voyager pour apprendre. Bien sûr, il faut voyager parce que quand nous voyageons, nous voyons plusieurs choses. Et chaque pays a sa manière de vivre.
Mon sujet était le plus facile parce qu'il y avait maintenant un sujet facile et belé. J'ai choisi le sujet le plus simple et j'ai développé aussi vite. Je suis sorti maintenant, je suis au moins à l'aise et j'attends le reste.
Entre-temps, au Kasaï oriental, près de 19 000 élèves finalistes ont été inscrits à l'épreuve des dissertations dans la province éducationnelle Kasaï oriental 1. Le coup d'envoi pour la passation de cette épreuve a été lancé lundi à l'un des sites de l'examen d'État situé au collège Saint-Pierre d'Ibouadja-Bouakana par le gouverneur de province intérimaire. L'autorité provinciale et les autorités scolaires ont tous prodigué des conseils aux élèves finalistes. Des explications avec Esther Ndalafina.
La province éducationnelle Kasaï Oriental 1 a inscrit 19 000 élèves finalistes. D'après l'inspecteur principal provincial, ces élèves finalistes sont disséminés dans 52 centres. Il a indiqué que cette année, le nombre d'élèves ainsi que celui des centres de passation de ces épreuves ont été revus à la baisse. Les motifs de cette baisse n'ont pas été évoqués à cette cérémonie. Le gouverneur de province intérimaire qui a lancé officiellement cette épreuve de dissertation a prodigué des conseils aux élèves finalistes.
Je vous invite à une parfaite concentration et abnégation. Je vous exhorte à faire preuve d'une grande maîtrise dans les salles d'examen. Faites des efforts personnels, ayez confiance en vous-même et ne recourez jamais au phénomène Bintou, ni à une autre sorte de fraude ni tricherie.
Aux parents, Ananias Mouzadi leur a demandé d'être attentifs.
Je voudrais vous féliciter pour vos multiples sacrifices endurés pour soutenir les études de vos enfants. Faites en sorte qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Puis, assurez-vous de l'état de sobriété duquel ils devraient s'amener au centre des examens d'État.
Signalons qu'après l'épreuve de dissertation, les élèves finalistes seront soumis ce mardi à l'examen oral de français, puis suivra la pratique professionnelle. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, dans la province de la Tchopo, c'est le gouverneur de province par intérim qui a lancé officiellement ce lundi 6 mai les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2024. Les malles de ces épreuves ont été ouvertes devant les membres du comité provincial de sécurité, des superviseurs venus de Kinshasa, du comité des parents ainsi que des élèves finalistes rassemblés dans la cour de l'Institut de Kisangani pour la circonstance. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Après les formalités protocolaires et le contrôle des frais requis pour les élèves en retard de paiement, les candidats ont été autorisés d'accéder dans les salles d'examen. Au total, 61 centres, dont 51 dans la ville de Kisangani et 10 à l'intérieur, accueillent 19 461 candidats, parmi lesquels 8 529 filles et 10 932 garçons. Léon Omandeka, inspecteur principal provincial EPST Tchopo 1, explique l'objectif à atteindre.
Notre objectif est de placer la province éducationnelle Tiopo 1 sur l'orbite de provinces qui produisent le meilleur lauréat de la République démocratique et du Congo pour bénéficier aussi de bourses d'études. Pour atteindre cet objectif, le concours de tous s'avère indispensable.
Pour sa part, le directeur provincial de l'EPST Tiopo 1, Alain Mouindim, a prodigué aux candidats à ces épreuves préliminaires des conseils nécessaires avant de les affronter.
Vous avez fait la pratique à l'école, il y a des sujets que vous avez eu à traiter, c'est pareil à ce que vous allez traiter aujourd'hui. Si à l'école vous étiez fort sur un sujet sur la femme, vous allez voir s'il y a un sujet sur la femme, vous allez le prendre et vous allez avoir les mêmes idées et travailler, ça va passer sans problème. Soyez serein, soyez courageux.
Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, Kalemi doit être déclarée ville sinistrée suite aux dégâts causés par des inondations. Propos du coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Tanganyika. Dieudonné Kabulo l'a dit ce lundi à la radio Kapi. D'après lui, il est urgent pour les gouvernements provincial et national de prendre en charge les sinistrés des inondations des eaux du lac Tanganyika. Dieudonné Kabulo, coordonnateur provincial de la CNDH Tanganyika, est au micro de Paulin Mouna.
Nous avons ensemble avec la société civile d'abord fait des descentes sur terrain pour vérifier effectivement si cette situation est grave. Et nous avions même une statistique qu'on a faite là-dessus. Beaucoup de ménages sont attaqués et ils sont obligés par cette nature-là de laisser leur logis et s'en chercher ailleurs. Au début, là, c'était un peu compréhensible, c'était quelques ménages, tout ça, bon, ça ne posait pas tellement de problèmes. Maintenant, ça devient grave. Puisque quand vous prenez le quartier Kamkolobondo, vous prenez les quartiers d'Ave, vous trouvez que presque 85% de ménages sont déjà déplacés. Ils sont attaqués par ces eaux-là. Ça devient un sinistre. Que notre État congolais doit veiller sur cette situation au besoin, déclarer la ville de Kalemi comme étant une ville sinistrée et qu'il faut une urgence. Le gouvernement doit prendre des mesures humanitaires en faveur de ces sinistrés.
Et puis, ici à Kinshasa, des stations-service font face à une difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers depuis ce week-end. Conséquence, les automobilistes doivent s'armer de patience avant d'être servis en essence ou gasoil. Les quelques stations-service opérationnelles rationalisent leur stock. À l'origine de cette situation, la continuelle question de la dette pétrolière. Le gouvernement doit honorer ses engagements pour compenser les manques à gagner des opérateurs dans la composition de la structure des prix du carburant. C'est ce qu'explique Emery Mbanchi Bopé, président de l'Association des pétroliers privés de la RDC. Il est au micro de Cynthia Bashi Zinabizana.
Le problème, c'est comme nous avons toujours l'habitude de le dire, les consommateurs, tous les usagers qui ont des véhicules qui utilisent le produit blanc, le produit pétrolier, ils savent qu'il y a une partie de leur prix qui est toujours prise en charge par l'État congolais. Donc, ce qu'on appelle une subvention. Ça veut dire qu'il y a une partie du prix de ces produits qu'on achète dans les stations-service qui est prise en charge par l'État. Nous avons suffisamment d'argent qui devait être payé pour maintenir l'équilibre, comme j'avais dit. Si on paye, le circuit sera normal. Il ne faut pas courir derrière les événements. Par exemple, dernièrement, CEP Congo, face à la difficulté de la logistique, a dit non, je ne sais plus prendre en charge ni les heures supplémentaires, ni les livraisons nocturnes. On a payé une partie à CEP en tant que logisticien. On doit payer à tout le monde pour que le circuit redevienne normal. Le problème des stocks, c'est une conséquence logique de non-paiement, de perte et manque à gagner, parce que ces produits que nous vendons, ce sont les produits appartenant aux fournisseurs. Si vous ne payez pas ces fournisseurs, comment ils peuvent vous faire confiance?
Nous n'avons pas encore la réaction des autorités à ces sujets. Et puis, les Lualaba est une province minière, mais il n'est pas dit que tout le monde doit aller dans les mines pour vivre. Propos de Georgette Ngalula, la soixantaine révolue, vendeuse au marché des Kasulu à Kolwezi. D'après elle, pour réduire la pauvreté et le chômage, les Lualaba devraient diversifier les activités commerciales et ne pas se concentrer uniquement dans les mines. Grâce à Mzati, reportage.
Nous, nous sommes au marché. Si tout le monde allait dans les mines, qui devrait vendre? Ou bien si on venait acheter, qui devrait vendre?
En faisant cette interpellation, Madame Georgette, ancienne fonctionnaire de l'État, affirme que grâce à son commerce, elle nourrit sa famille et scolarise ses enfants.
Puisque je n'ai pas d'emploi, je me débrouille quand même pour avoir mon pain quotidien.
Alors que dans l'administration, elle n'arrivait pas à nouer les deux bouts du mois, témoigne-t-elle.
Quand j'étais encore jeune, je travaillais. J'étais un agent de bureau. Je travaillais beaucoup. Et maintenant, j'ai choisi à me suffire par moi-même.
Cependant, son travail n'est pas sans difficulté, d'où sa doléance.
Les gens de mairie qui nous comprennent un peu, qui réduisent un peu les artos là de Salongo, 2000 c'est trop, qui nous apaisent un peu, ils mettent 1000 francs. Vous voyez, mes choses sont trop peu. Nous sommes des détaillants et des grossistes, mais moi je suis détaillant. Quand je dépense 2000 mercredi, 2000 samedi, dans un mois c'est combien? Je ne peux pas vraiment tenir.
Georgette Ngalula encourage ses compatriotes et se propose comme modèle pour l'autonomisation des femmes notamment.
À Kolwezi, il y a tout. Tout le travail assure l'indépendance. Puisque si tu ne travailles pas, tu ne peux même pas trouver quelque chose à manger. C'est en travaillant qu'on gagne la vie.
Des retours de Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les bilans des inondations au Kenya continuent de s'alourdir en raison des fortes pluies persistantes. Le gouvernement a annoncé dimanche 5 mai, lors d'un point de presse dédié à la crise, que les bilans humains des semaines d'inondations dévastatrices s'élevaient à 228 morts, 72 personnes portées disparues et plus de 212 000 déplacées. Le cyclone tropical Idaya qui a balayé samedi les côtes du Kenya n'a finalement pas fait de victimes après avoir perdu des sa puissance en atteignant les côtes de la Tanzanie samedi 4 mai.
L'invité.
Comment lutter contre les violences basées sur les genres et canaliser les plaintes des femmes de ménage victimes des traitements dégradants? Tels ont été les sujets au cœur des échanges entre les femmes de ménage et les structures étatiques chargées de résoudre ces problèmes. Des intervenants issus de la sous-division du genre et la sous-division de la prévoyance sociale de Béni ont exposé les voies à suivre pour que les personnes lésées soient remises dans leurs droits et que les employeurs de ces femmes de ménage les traitent avec équité et humanité. Linda Boulesso, coordinatrice de l'Union des femmes domestiques du Congo à Béni, s'entretient avec Blaise Makassi.
Bonjour madame, Linda Boulesso.
Bonjour.
Pourquoi avoir organisé cette formation sur le dialogue pour permettre aux femmes de ménage d'écouter les personnalités qui ont exposé sur différents sujets?
C'était une journée de réflexion où nos membres ont été enrichis sur différentes thématiques, notamment les VBG dans le secteur informel, les droits dans le secteur informel, la sécurité et santé au travail dans le secteur informel. Tous ces sujets-là ont trait sur leur vie de travail et ça va leur faciliter de comprendre que ce sont des travailleurs et ils doivent prendre à cœur le métier qu'ils font.
D'où vous est venue cette idée de réunir les femmes de ménage pour permettre à ce que vous puissiez contribuer à la promotion de leurs droits?
Alors l'idée nous est venue de par le plainte ou bien le problème dont nos membres sont victimes. Et on a jugé bon de les mettre, si ce n'est pas en confrontation, mais ensemble avec les employeurs, afin qu'ils puissent s'exprimer. Et qu'on puisse essayer de voir si on peut trouver des pistes et des solutions parce que nous étions avec les services étatiques habilités en la matière. Et de par cette journée, nous savons qu'il y aura des actions qui seront prises à tous les niveaux, au niveau des travailleurs domestiques et même ceux qui travaillent dans les secteurs, dans les boutiques commerciales, mais aussi les services étatiques aussi ont compris leur part. Ils ont un mot à dire, ils ont quelque chose à faire pour que la vie des travailleurs domestiques ou bien la vie de tout travailleur dans les secteurs informels soit normalisée.
Et quelles sont les principales plaintes que vous recevez au sein de votre association en ce qui concerne les différentes difficultés que traversent les femmes de ménage?
La plupart de nos membres se plaignent d'abord des salaires qui n'est pas décent, qui ne couvre pas tous les besoins. Mais à cela, on a des pistes, des solutions. On essaie de les faire montrer que l'économie, on doit, chaque personne doit faire tout pour que son économie, bien pour que ce qu'il gagne contribue à couvrir toutes ses charges. Alors à cela, il y a des séances qu'on fait avec eux pour leur faire voir comment épargner, comment mettre de côté quelque chose. Et à part cette question-là des salaires non décents, il y a aussi le manque de contrats ou bien le non-respect des clauses de contrat. Récemment, j'ai recueilli une femme qui a dit qu'il travaillait chez X personnes pendant 3 mois. Avec un contrat verbal, malheureusement un contrat verbal selon lequel la personne aura droit à une somme quelconque d'argent. Au début, ils ont énuméré les tâches que l'employeur doit faire. Et après les 3 mois, l'employé a ajouté d'autres tâches. Sans même une compensation ou bien ajout d'une petite somme par rapport à ces tâches-là. Mais après les 3 mois, alors pour la personne, pour notre membre, c'était vraiment un calvaire parce que de par les contrats initiaux, les travailleurs trouvaient faire d'autres courses ailleurs, d'autres travaux, petits travaux pour compléter le mois. Alors, mais avec l'ajout de ces tâches-là, il n'y avait plus moyen à ce que les travaux à côté qui l'aidaient à subvenir ou bien à couvrir toutes ces charges mensuelles, ils ne pouvaient plus faire ça. Mais aussi, on peut ajouter à cela, il y a quelques cas de violence basé sur les genres qui sont signalés de part et d'autre. Et on fait tout pour les accompagner ou bien les orienter vers les structures habilitées pour la prise en charge.
Quelle est la vision de cette structure pour l'émergence de la femme de Béni?
Alors notre vision, c'est de voir nos membres épanouis, le voir aussi accepter leur travail et le prendre à cœur, le voir aussi offrir des services qui sont vraiment de qualité aux employeurs et qui peut-être et aussi arrivent à nouer les deux bouts du mois sans beaucoup plus de difficultés. Donc c'est ça notre vision, voir nos membres épanouis et qu'ils aient un contrat, qu'ils aient un salaire qui leur permette de couvrir les deux bouts du mois.
Madame Sadiki, merci.
Merci.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'actualité sur Radio Okapi, mise en onde pour vous par Jean-Noël Mokondo, supervision de Martin Sebujangwe et coordination d'Élisée Tikota Tivueta. À la présentation, Patience Ngalulambombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 16h, heure de Kinshasa. Il sera 17h dans la partie orientale de la RDC.